le 5-7.
Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal. Bonjour Sophie Hechen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h sur Europe 1.
I'm deeply sorry for every life that has been lost and of course as Prime Minister I take full responsibility for everything that the government has done.
Je suis profondément désolé pour chaque vie perdue et bien sûr en tant que Premier ministre j'endosse la pleine responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait. Boris Johnson assume le dernier bilan du Covid au Royaume-Uni qui vient de franchir la barre des 100 000 morts. En Allemagne, la situation reste encore sous contrôle avec moins de 10 000 nouvelles contaminations par jour, mais Berlin envisage tout de même d'interrompre les vols vers son territoire pour se protéger notamment des différents variants du virus. Dans ce journal, ce que Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol, a dit au juge lors de son audition, le métro parisien bien plus pollué que ce que rapportent les données de la RATP, avec des valeurs qui peuvent varier du simple au triple, vous l'entendrez. Et puis quand l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, fait bondir une action en bourse, grâce à un tweet, explication à la fin de ce journal.
À suivre la page des sports avec Jérôme Lacroix et l'arrivée imminente du Vendée Globe, et puis Napoléon, 200 ans après sa mort. Héros, génie ou tyran ? Tout cela à la fois, nous dira mon invité inattendu, qui est un journaliste, un homme de gauche, ce qui ne l'empêche pas d'être follement passionné par Bonaparte. Bon réveil, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée. Ce matin, le gouvernement devrait acter d'un troisième confinement alors que l'épidémie regagne du terrain en France. Plus de 22 000 nouveaux cas recensés hier. Les hospitalisations continuent d'augmenter. Plus de 3 000 patients sont actuellement en réanimation.
L'Allemagne, avec environ 6 000 nouveaux cas par jour, a retrouvé des niveaux d'épidémie bien inférieurs à la plupart des pays européens. Mais pas question pour autant d'assouplir les restrictions.
Non, au contraire, le gouvernement envisage de freiner drastiquement le trafic aérien. Hélène Coll.
Plus aucun vol vers l'Allemagne pour réduire le plus possible les entrées de voyageurs sur le territoire. C'est la piste à laquelle le gouvernement allemand réfléchit depuis hier pour empêcher l'importation de virus mutants sur le modèle de ce que fait déjà Israël. Les vacances scolaires commencent vendredi ici et pas question d'assister aux mêmes scènes que fin décembre dans les aéroports. Plusieurs dizaines de milliers d'Allemands sont partis pour les fêtes aux Canaries ou aux Maldives. Certes, les chiffres de l'épidémie n'ont jamais été aussi bons depuis 3 mois en Allemagne, avec environ 6 000 nouveaux cas par jour, mais selon Merkel, baisser la garde serait une erreur.
Une des grandes leçons de la pandémie, c'est que le phénomène de croissance exponentielle du virus ne se voit presque pas au début, mais que c'est à ce moment-là qu'il faut agir.
Avant-hier, lors d'une réunion à huis clos, elle a exprimé son inquiétude. À ses yeux, l'apparition des variants est un événement terrible. Nous sommes assis sur un baril de poudre, dit-elle. La situation nous a échappé. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
La situation dramatique en revanche au Royaume-Uni qui vient de passer la barre des 100 000 morts du Covid, une première en Europe. Alors que le gouvernement déploie tous ses efforts dans la vaccination, le Premier ministre Boris Johnson assume. Il s'exprimait face à la presse hier.
Aujourd'hui, je tiens à répéter que je suis profondément désolé pour chaque vie perdue. Et bien sûr, en tant que Premier ministre, j'assume la pleine responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons vraiment fait tout ce que nous pouvions et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour minimiser les pertes de vie, minimiser les souffrances dans ce qui a été une étape très très difficile.
In a very, very difficult crisis.
Voilà, Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Sur le front de la vaccination, Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur dose de vaccin. Le groupe français devrait en conditionner plus de 100 millions d'ici la fin de l'année.
Dans l'actualité également ce matin, il y a ces nouvelles révélations dans l'enquête pour viol qui vise Gérald Darmanin.
L'affaire qui avait d'abord été classée sans suite fait l'objet d'une information judiciaire depuis juin 2020. Le ministre de l'Intérieur est placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre de cette instruction et il a été entendu pour la première fois par la juge, le 14 décembre dernier. Mediapart dévoile ses déclarations, Marion Dubreuil.
Oui, et pour la première fois, le ministre de l'Intérieur a laissé entendre qu'il était la cible d'une vengeance politique, d'après Mediapart, que Sophie Patterson avait déposé plainte contre lui en 2017 parce qu'elle n'avait pas supporté qu'il quitte les Républicains pour La République en marche. Élodie Thuayon-Libon, l'avocate de la plaignante, se dit effarée par cette nouvelle ligne de défense.
C'est lui qui s'est quand même répandu dans les médias sur le fait qu'il avait eu une vie de jeune homme, que c'était quelque chose de grivois. Et aujourd'hui, finalement... C'est une vengeance politique. Nous, ces affaires de politique, franchement, on n'a rien à faire. Ma cliente n'a pas déposé plainte pour changement d'étiquette politique, mais pour viol.
Gérald Darmanin a une nouvelle fois balayé les accusations d'abus de pouvoir. Il n'y avait pas de contrepartie dans cette relation sexuelle, a-t-il affirmé à la juge d'instruction. C'est le cœur du dossier. Sophie Patterson affirme qu'elle s'est sentie obligée de céder aux avances de Gérald Darmanin, alors conseiller municipal UMP, pour obtenir son aide dans un dossier judiciaire. Dans son audition, le ministre de l'Intérieur n'a formulé qu'un regret, celui d'avoir rencontré la plaignante. Ses avocats se sont refusés à tout commentaire hier soir.
Marion Dubreuil du service Police-Justice d'Europe 1.
Le gouvernement veut avancer sur l'assurance chômage. Les négociations ont repris cette semaine avec les partenaires sociaux.
Et malgré l'opposition de l'ensemble des syndicats et les réserves du patronat sur certains de ces aspects, l'exécutif a bien l'intention de mettre sa réforme en œuvre à brève échéance. Un décret sera pris d'ici quelques semaines, a confirmé l'entourage d'Elisabeth Borne. Olivier Samin.
Est-ce que ce sera le 1er avril qui était la date initialement prévue ou est-ce que ce sera un peu plus tard? Ce qui est sûr, c'est que la mise en œuvre des nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs est une question de mois, avec l'idée de la lier à l'amélioration du marché du travail, mesurée par des indicateurs qui seraient définis à l'avance dans le texte. Ça, c'est pour répondre à la critique des syndicats sur le thème « Votre réforme serait catastrophique dans le contexte actuel ». Mais il n'y a pas que le timing que les syndicats contestent. Il y a aussi le fond de la réforme qui, disent-ils, va lourdement pénaliser les chômeurs. Ce à quoi le gouvernement répond en disant qu'il veut bien assouplir certaines règles qui avaient été fixées par Édouard Philippe. Par exemple, sur le mode de calcul des allocations chômage. Le ministère du Travail se dit prêt à instaurer un système de plancher qui protégerait d'une baisse trop rude l'indemnisation des chômeurs concernés, ou encore sur la durée de travail requise pour pouvoir être indemnisé. L'idée de revenir à 4 mois de travail et non plus 6 est clairement à l'étude, en tout cas pour les jeunes de moins de 26 ans. Mais, précise l'entourage d'Elisabeth Borne, le principe serait de revenir aux règles initiales dès que la conjoncture s'améliorera.
Les précisions d'Olivier Samin. Ce constat alarmant à présent de l'association Respire. La pollution de l'air dans les stations de métro parisien est jugée préoccupante.
Un laboratoire du CNRS a réalisé des mesures dans 10 stations entre 9h et 19h. Résultat, Virginie Salmen, la pollution mesurée est jusqu'à 10 fois plus élevée que dans la rue.
C'est dans les stations de RER que la pollution est la plus élevée, probablement parce que les trains sont plus gros et émettent plus de particules au freinage. Le directeur de recherche au CNRS, Jean-Baptiste Renard, s'est posté sur les quais avec son appareil portatif. Il a relevé des concentrations de particules fines et ultra fines, très variables en fonction de la profondeur de la station, de l'aération, de l'heure, avec des niveaux parfois très élevés.
Par exemple, Gare de Lyon, quand le RER arrive, on entend vraiment le freinage très fort et d'un seul coup, on voit une augmentation de la pollution d'un facteur 10 en quelques secondes.
La RATP a des capteurs de pollution de l'air actifs dans 2 stations de métro actuellement. Pour Olivier Blond, président de l'association Respire, c'est loin d'être suffisant.
La RATP, aujourd'hui, ne se donne même pas les moyens de mesurer sérieusement la pollution de l'air, alors que c'est pas très compliqué. Si même une petite association comme Respire a réussi à le faire, évidemment, la RATP pourrait le faire. La situation dans les stations de RER, elle est particulièrement inquiétante. On atteint des niveaux de 500 microgrammes par mètre cube. C'est ce qu'on trouve à Pékin ou à New Delhi.
Parmi les solutions, un changement du système de freinage des trains ou encore des aspirateurs à particules au plus près des voies.
Virginie Salmen.
Et puis voici l'homme qui transformait ses tweets en or. Une nouvelle prouesse signée Elon Musk.
Le patron de SpaceX et de Tesla a fait savoir hier sur Twitter qu'il aimait bien le site de vente en ligne Etsy. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le cours de bourse du site américain bondisse. Et ça, Aurélien Fleureau, c'est loin d'être une première.
Oui, c'est vrai que cela commence à devenir une habitude. Le dernier exemple spectaculaire, c'était il y a 2 semaines. Elon Musk avait incité les 43 millions de personnes qui suivent son compte Twitter à utiliser l'application de messagerie cryptée Signal. Et en quelques minutes, le cours avait pris 1000%, sauf qu'il s'agissait en fait de Signal Advance, une entreprise texane qui n'a pas compris pourquoi sa valeur venait subitement d'être multipliée par 12. Pour Etsy, l'effet a été moins spectaculaire. Après une ouverture en forte hausse, le cours a retrouvé son niveau habituel, mais la banque d'investissement Jefferies a tout de même relevé le titre Etsy de 40$. Tout cela grâce à l'un des chiens d'Elon Musk, puisque c'est après avoir acheté un bonnet en laine tricoté à la main pour l'un d'eux que le patron de Tesla a tweeté sa satisfaction. La société japonaise de jeux vidéo Bandai Namco a elle aussi profité d'un bond de 4% à la bourse de Tokyo. C'était il y a 10 jours. Celui qui est devenu l'homme le plus riche du monde avait simplement publié l'image d'un personnage de jeu dans un tweet.
Bah comme quoi, il ne faut pas grand-chose.
Aurélien Fleureau, et c'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h10.